Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je vais commencer par une courte introduction avant de nous présenter. L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Les actions les plus simples de notre quotidien, allumer la lumière, lancer son PC, consulter ses messages, se servir dans le frigo, sont en fait de véritables prouesses technologiques. » Nous ne nous en rendons pas compte parce que ces formidables exploits techniques nous sont devenus ordinaires et banals. Pourtant, ce quotidien ordinaire est extrêmement récent au regard de l'histoire à l'extérieur d'une vie humaine. Toutes ces merveilles désormais banales nous viennent principalement de notre aptitude à produire, transformer, distribuer de l'énergie en grande quantité. Elle est partout, elle fait partie de nos vies à chaque instant et bien sûr, elle a nourri les imaginaires du passé et continue à être source de fantasmes, d'imagination, de projections. Je m'appelle Flavien Lopresti, je suis étudiant à l'université Bordeaux-Montaigne et membre de la chaire ISET, Réseau électrique et société en transition. Je prépare un mémoire sur l'histoire des prothèses myoélectriques et l'être humain augmenté. Et nous allons discuter dans cette table ronde des représentations de l'énergie des réseaux dans le passé, dans la fiction et dans l'ASF, avec Natacha Vazder, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, francophone et comparée. Natacha, vous êtes chargée de cours et chercheuse au CLAR, à l'université Bordeaux-Montaigne, et vous êtes la présidente du festival Hypermonde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Natacha?
Ben non, c'est bien, comme ça, on reviendra à la fin sur les
D'accord,
petites
bien sûr.
actualités.
Nous sommes également accompagnés d'Antoine Baccini, chercheur associé en Geek Story au sein de la chaire ISET. Antoine, tu viens d'obtenir ton master en histoire économique à l'université Bordeaux-Montaigne avec la présentation de ton mémoire sur la trajectoire et le développement de l'entreprise Lucasfilm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Antoine?
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ok. Bien sûr, ce, je vous propose de commencer donc cette table ronde avec une première question. Donc, de Zeus à la fée électricité, de l'éther au tesseract, comment se représente-t-on l'énergie dans la fiction? Antoine, je te propose de commencer prendre la parole, t'exprimer sur le sujet. Puis Natacha, si vous avez quelque chose à ajouter, on
Voilà.
verra comment le sujet rebondit.
Alors, je pense que d'une part, il faut commencer par préciser que c'est une énergie qui, évidemment, fait depuis en fait de nombreux siècles l'objet de fantasmes. Elle a été et elle est encore d'ailleurs souvent représentée en fait comme une force surnaturelle. Et c'était déjà le cas en fait à l'époque antique, puisque dans l'imaginaire mythologique de nombreuses civilisations et qui étaient des quatre coins du monde, cet imaginaire-là en fait était très présent, que ce soit chez les Yoruba du Bénin, chez les Grecs anciens ou encore par exemple chez les Aztèques. L'énergie électrique est en fait alors souvent l'apanage de puissants dieux qui vont occuper au sein de leur panthéon une position qui est prééminente. Et l'exemple évidemment le plus évident, c'est Zeus qui est le roi des dieux dans la mythologie grecque et Jupiter donc son pendant chez les Romains, puisqu'il est donc le maître en fait de la sphère céleste et il contrôle l'ensemble des dynamiques météorologiques et il peut faire s'abattre donc la foudre qui est le symbole de son pouvoir et parfois de sa fureur divine. Et il manie pour cela un attribut qui est d'ailleurs nommé le foudre, qui est en fait un faisceau de dards enflammés qui fut forgé par les trois cyclopes uraniens. Donc en plus de ces éléments, on se rend bien compte que les caractéristiques intrinsèques finalement en fait du fluide électrique, à l'instar par exemple de son invisibilité, renforcent encore davantage ce caractère presque magique et donc son lien avec l'univers des légendes et du mystérieux. Donc voilà pour les origines mythologiques, si vous avez des choses à rajouter à ce niveau-là.
Non, aucune. Non, non, rien à rajouter. C'était très bien. Juste simplement, je voulais qu'on revienne sur justement cette notion de représentation, parce que ce qui me semble intéressant par rapport donc à la chaire Reset et le travail que faire avec Hypermonde et avec évidemment les recherches sur l'imaginaire à l'université Bordeaux-Montaigne, c'est qu'en fait une représentation hein, pour tout le monde, c'est une image, une métaphore, une allégorie qui en fait est projetée par la fiction sur l'imaginaire collectif. Donc, quand on travaille sur l'histoire des représentations, ce que nous allons évidemment évoquer un petit peu ici par rapport à l'électrification, par rapport à l'électricité par rapport au réseau, eh bien, c'est un petit peu, je dirais, cette image plastique qu'on va retrouver donc chez les créateurs, chez les spectateurs, chez les lecteurs. Et cette image-là est très précisément représentative justement de toutes les mentalités qui peuvent donc inventer des images concernant un sujet, dont ici l'électrification ou l'électricité. D'accord ? Voilà, donc ça c'est important parce que ça va permettre de voir que dès le début, et pour évidemment faire le lien avec ce que vient de dire Antoine, bien dès le début, dans la mythologie en fait, il faut jamais oublier que c'est un monde où il y a une pensée magique et c'est un monde où il n'y a pas d'explication en fait scientifique. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas une sorte de préscience et qu'ils projettent cette sorte de préscience donc sur la fiction. Et quand on ne connaît pas un phénomène quel qu'il soit, là c'est le phénomène physique de l'électricité. Je veux dire, les hommes voient bien qu'il y a ces espèces de gigantesques éclairs qui tombent du ciel. Ils ne savent pas évidemment l'expliquer scientifiquement, mais ils comprennent bien que c'est une puissance qui permet donc de va provoquer hein, depuis tout le temps des incendies, qui va provoquer des destructions. Et il voit bien que cette puissance-là, elle ne vient pas du soleil, elle vient très précisément d'un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ce phénomène, cette puissance, va être projetée via la figure mythologique donc, de Zeus.
Puisque vous parlez de représentation, Natacha, bien justement, en ce qui concerne notamment la figure des dieux, ils étaient représentés avec des épiclèses, c'est ce qui leur permettait d'être reconnus. Donc, puisqu'il s'agit de symboles, hein, de la même façon que quand on voit un S stylisé, on reconnaît Superman, ces symboles permettaient d'identifier une divinité. Bien entendu, le foudre fait partie des épiclèses de Zeus. De la même façon, une chose intéressante, c'est que, par exemple, à Rome, quand il y avait les représentations au Sénat, peu de choses pouvaient interrompre un vote, mais une chose était là, c'est que si pendant un vote l'orage se mettait à tonner, bah ça voulait dire que Jupiter n'était pas d'accord et le vote était refusé, et la séance ajournée. Donc c'était bien entendu quelque chose qui était pris au sérieux.
Oui. Et pour ajouter, parce que je vois que les autres questions, peut-être on va sortir un petit peu de l'historique. Dans la fiction, par exemple, et donc dans la science-fiction, hein, puisque c'est de ça dont il est question, dans la science-fiction, on va avoir comme ça, quelques représentations qui sont extrêmement intéressantes, qui vont suivre complètement en parallèle l'histoire industrielle de la civilisation occidentale. Je crois que le point de départ qui est aussi, alors ça c'est quand même super important à préciser, le livre donc évidemment de Mary Shelley en 1818, donc oui. Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui est l'histoire donc de la création donc du Stein via le galvanisme et il y a toutes ces théories où on pensait que l'électricité pouvait redonner la vie. Et bien, c'est aussi la première œuvre qui est considérée par les exégètes comme la toute première œuvre en fait de science-fiction véritablement, puisque il ne s'agit pas de fantastique hein, proprement dit, mais bien d'un savant qui est considéré comme un savant fou. Il va initier en fait cette thématique du savant fou qui va avoir un assez grand succès donc le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, qui va donc créer ce personnage. Ça, c'est vraiment la toute première, je dirais, la toute première figure qui est liée à l'électricité. La seconde figure, alors qu'on va retrouver, qu'on va bien évidemment retrouver transposée au cinéma, puisque dans le Frankenstein de James Whale en 1931, eh bien, l'électricité a une place absolument prépondérante, la fabrication d'électricité, le transfert de l'électricité. Donc, ce serait intéressant, par exemple, dans le cadre de la chaire, qu'on travaille très précisément sur Frankenstein et ses différentes adaptations. Nous avons fait un top Frankenstein qui s'appelait Frankenstein intermédiatique, vous voyez, où on a déjà une base de travail pour reprendre ça. Évidemment, il faudrait citer Jules Verne et Albert Robida qui vont mettre en scène véritablement la fée électricité. Et puis, pour donner, je pense, un contrepoint quand même important par rapport au XXe siècle, c'est quand même le livre de Ravage. Et dans Ravage, eh bien, René Barjavel, qui ne donne pas d'explication scientifique au phénomène, eh bien, en 1943, va faire s'effondrait complètement l'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'électricité. Bah, toute l'électricité produite par l'humanité eh bien, est complètement arrêtée. Les scientifiques sont absolument incapables d'expliquer donc, ce phénomène. Alors, c'est un tour de passe-passe, c'est un petit peu facile, évidemment, pour Barjavel. Mais dans tous les cas, ça va véritablement montrer comment est-ce que notre civilisation technologique est dans l'incapacité de survivre sans l'électricité. Donc, ça place, si vous voulez, l'électricité, le réseau électrique, vraiment au cœur de notre civilisation contemporaine.
Ce qui est très intéressant avec Ravage, c'est que c'est aussi complètement le reflet, en fait, d'une défiance qu'il y avait au XIXe siècle, à ce moment-là, chez mal d'intellectuels, vis-à-vis de cette énergie électrique. En fait, c'était une manière de mettre en garde un petit peu la civilisation occidentale, en fait, vis-à-vis d'une trop grande dépendance à cette énergie, en raison justement, en fait, de la potentielle fragilité de sa prise et du coup des conséquences, en fait, que leur dispersion pourrait entraîner pour une humanité qui commençait à se reposer vraiment très largement sur l'existence de cette énergie-là, quoi.
Est-ce qu'il y avait un message contre l'orgueil de type attention à ne pas se prendre pour Dieu?
On a beaucoup parlé de Barjavel, parce que vous savez que Barjavel a écrit en 1943, que Barjavel a été recruté, alors c'est un roman qui a été publié donc par De Noël, qu'il avait rencontré De Noël à Vichy. Bon, ça c'est vraiment un hasard, hein, ça n'a rien à voir avec le régime donc nommé, mais en fait… De Noël a été accusé, puisqu'il a publié les écrits, donc il a publié évidemment Le Voyage au bout de la nuit de Céline, mais aussi tous les écrits antisémites des grands éditeurs, si vous voulez, de cette époque, de toute façon, ont été peu ou prou antisémites, quand vous le replacez dans l'histoire des grandes maisons d'édition. Donc, par sa proximité avec De Noël, par sa proximité aussi avec un autre auteur de la maison d'édition, qui s'appelait Lucien Rebatté, qui était vraiment un antisémite vraiment féroce, mais qui était nuancé comme Barjavel, Barjavel, à sortir de la guerre, a été accusé de collaboration. Alors, pourquoi je fais le lien, évidemment, avec Ravage? Parce qu'on a dit que dans Ravage, il y avait de retour à la terre, donc de ne pas suppléer forces agricoles de la nation, etc., puisque c'est quand même une vision assez rétrograde et régressive que nous propose Barjavel à la fin de Ravage. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça, en fait, et je crois que c'est une erreur. Je bagarre très souvent avec beaucoup de spécialistes par rapport à ça, parce qu'en fait, Barjavel a rencontré donc une sorte de patriarche qui s'appelait Lanza del Vasto, et ce patriarche, en fait, prônait effectivement le retour à la terre, et il voulait, donc on était dans les années 30, et dans les années 30 où on était au début, si vous voulez, de l'industrialisation forcenée, de l'électrification, et donc effectivement, lui luttait pour garder finalement une civilisation qui ne soit pas une civilisation industrialisée. Je pense qu'il a beaucoup influencé la pensée de Barjavel, et qu'on retrouve donc ça, tout à fait, cette figure du patriarche, c'est son personnage donc de François Deschamps, à la fin, dans le dernier chapitre de Ravage.
D'ailleurs, revient avec La machine explorer le temps, je crois. Enfin, disons que je ne me souviens plus du titre.
Oui, tout à fait, c'est dans Le Voyageur imprudent.
Oui, c'est ça, voilà.
Où Barjavel, là, invente une machine à explorer le temps. Alors, très intéressant, Le Voyageur imprudent, parce qu'au-delà du voyageur dans le temps, il nous projette dans un futur assez éloigné, où en fait, les hommes et les humains ont subi en quelque sorte une mutation extrême, et ils ne sont plus que des objets servant, on va dire, la production industrielle. Donc, par exemple, vous allez avoir des vaches qui n'ont qu'un seul pied, et avec un pied absolument énorme qui est plus gros que la vache en elle-même. Puis après, vous avez des vaches où ils vont avoir… Enfin, c'est Barjavel anticipé complètement sur les progrès biotechnologiques d'aujourd'hui, où les bêtes vont être, par exemple, ça va être des vaches, vous n'allez avoir que deux cuisses, vous voyez, et le reste du corps qui va être totalement dénaturé. Voilà, enfin bref, je vais m'arrêter là.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, on était dans une vision de l'avenir qui était bien sûr une critique de l'industrialisation des années 40, c'est clair.
Oui. Toine, tu veux rebondir sur ce qui s'est dit?
Non, là, ça va, c'est bon.
Non,
bon.
Ok. Et du coup, ce qui nous amène donc à la partie, on va dire, un peu plus fantastique et SF, la partie Tesseract, qu'est-ce qu'on peut dire des énergies dans le fantastique ou dans la SF telles qu'on peut les voir, que ce soit dans Star Trek avec le dilithium, dans Marvel avec le Tesseract, etc. Quelqu'un veut se lancer?
Ouais.
Ben moi, ce que j'ai constaté, c'est le retour en force en fait d'un imaginaire électrique surnaturel. Que l'omniprésence peut-être de l'électricité dans nos civilisations en fait a fini par un petit peu étouffer la méfiance qui pouvait autrefois être ressentie dans l'imaginaire collectif, ce qui est paradoxal puisqu'en fait l'humain dépend de plus que jamais en fait du pouvoir électrique. Mais du coup on retrouve à l'heure actuelle une aura complètement mystique, enfin en tout cas dans la science-fiction, puisque par exemple on peut retrouver de nombreux personnages qui vont en fait être capables d'utiliser une énergie électrique surnaturel, à l'instar en fait un petit peu des dieux antiques, que ça soit Tornade dans les comics et les films Marvel, Pikachu dans Pokémon, Raiden dans le jeu vidéo Mortal Kombat, etc. Et donc vraiment je trouve qu'on ressent l'héritage de ces anciennes divinités électriques, et ce qui est un témoignage en fait de la persistance de cet imaginaire surnaturel qui est donc associé en fait avec le fluide électrique. Et en plus l'électricité demeure un thème qui est quand même prédominant, qui est d'ailleurs souvent utilisé en fait pour fournir une explication à des situations extraordinaires ou pour alimenter des machines qui vont être très sophistiquées. Par exemple, dans la série Stranger Things, on voit que le fluide électrique est utilisé à la fois en fait comme un symbole de la manifestation du surnaturel, ou plutôt du coup de l'Upside Down, qui est le monde parallèle dans lequel réside le monstre qui est le l'antagoniste de la saison 1. C'est aussi un moyen de communiquer justement avec ceux qui se trouvent prisonniers de cette autre dimension, comme si un petit peu cette énergie possédait en fait un lien intime avec ce qui dépasse l'entendement et la réalité de l'humain. D'ailleurs, dans de très nombreux films et séries télévisées, l'irruption du surnaturel est accompagnée de perturbations du réseau électrique, que ce soit de manière visuelle ou sonore. On se rend compte que c'est vraiment très très là. Et une troisième dynamique que j'avais identifiée et trouvée intéressante, c'est celle de l'aliénation de l'homme par le biais d'énergie électrique, donc qui est quand même là, même si elle est sûrement peut-être moins prépondérante qu'à une époque. Mais on voit quand même une résurgence un petit peu de questionnement, de ces questionnements anciens. En fait, c'est très flagrant dans le second épisode de la première saison de Black Mirror. Dans cet épisode-là, les showrunners dressent le portrait d'un monde dans lequel en fait la plus grande partie de la société doit passer le plus clair de son temps à pédaler sur des vélos afin de générer donc l'électricité pour alimenter leurs alentours. Donc, on voit bien qu'ici une preuve finalement de la persistance quand même de cette peur d'aliénation par le fluide électrique qu'elle occupe moins peut-être. Passe une époque en fait.
Avant de donner la parole à Natacha, je voudrais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que dans les hypothèses qu'on pourrait fixer sur cette question, on pourrait envisager la question de la résistance au changement. Le fait que quand quelque chose de nouveau apparaît dans une société, la société a tendance à ne pas l'accueillir les bras ouverts parce que ça représente une modification de son paradigme et donc la nécessité de faire un effort. En bien ou en mal, hein, mais le fait est que du coup, c'est pas forcément bien accueilli. On est tous nés dans un monde avec électricité, ce qui n'était pas tellement le cas, par exemple, encore à l'époque de Barjavel, justement. Alors que aujourd'hui, ben, en fond, tout le monde voit et utilise l'électricité. Donc, probablement que cette méfiance qu'on pouvait trouver au départ a moins de raisons d'être là, puisque ça fait partie de notre quotidien. Mais de la même façon, on sait que cette électricité a un coût, et donc je pense qu'il n'est pas impossible d'envisager que ben, l'ASF et l'anticipation jouant les rôles d'annonceurs d'alerte, ce genre de thématique, bien entendu, refasse surface. Qu'est-ce que vous en dites, Natacha ?
Alors, ah bah oui, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Pour être complémentaire par rapport à ce qu'a dit Antoine, je dirais que la technologie et donc la source d'énergie électrique, eh bien, elle est souvent présentée dans les littératures de l'imaginaire et dans la SF, en fait, comme magique. Si vous regardez, par exemple, Star Wars, on est très, très loin d'une science-fiction. C'est-à-dire que on a toutes les sources d'énergie, tous les éléments technologiques qui ont l'air voilà de vivre par eux-mêmes, ça pose aucun problème donc évidemment aux différents acteurs de l'histoire, mais il y a quand même une je pense qu'il y a quand même un quand même une exception dans la science-fiction. C'est dans le sous-genre, en fait, du post-apocalyptique. Parce qu'en fait, dans la littérature post-apocalyptique ou dans le cinéma post-apocalyptique, eh bien, l'électricité, et ça, c'est tout à fait complémentaire de ce que vous disiez, Flavien, en fait, l'électricité, c'est le cœur de la survie. C'est-à-dire qu'en fait, sans électricité, l'humain ne peut plus vivre. Alors qu'en réalité, l'électricité, elle n'est là que depuis, allez, on va dire, même pas 200 ans, hein, un peu plus de 200 ans. Et que ça veut dire que nous sommes rentrés dans un type d'humanité qui ne peut plus subir de régression énergétique.
Oui, et d'ailleurs, puisque vous en parlez, ouais. C'est également le cas dans pas mal de jeux vidéo, notamment des jeux vidéo basés sur la survie. Je pense notamment, ouais, par exemple, à Alan Wake, qui est un jeu d'horreur assez proche des ambiances de Stephen King, où le personnage principal se retrouve face à une entité obscure, au sens premier du terme, et la façon de combattre donc cette entité, au moins de lui résister, c'est justement la source de lumière. Bien ouais. entendu, cette entité se déplace pendant la nuit, donc la lumière est un problème omniprésent à chaque chapitre de cette aventure.
Oui, pour être proche de votre analyse, quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. D'ailleurs, je signale à ce propos que Roland Le Houx et Jean-Sébastien Steyer ont sorti un magnifique livre sur Tolkien et les sciences. C'est-à-dire que même dans la fantasy, ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourra également explorer. Même dans la fantasy, vous avez cette représentation, en fait, de l'électricité. Et dans Le Seigneur des Anneaux, cette lumière qui apparaît évidemment comme magique permet à Frodon, dans Le Retour du Roi notamment, et à Sam, donc l'autre personnage, de pouvoir se protéger du monstre, de l'araignée, la grande araignée que vous trouvez donc à la fin de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, donc on est complètement dans la lumière donnée par l'électricité permet d'éloigner les ténèbres apocalyptiques et on ne peut pas imaginer fonder une nouvelle civilisation sans l'électricité. Donc c'est pour ça que l'électricité, c'est même en termes de représentation, c'est vraiment le cœur de notre civilisation. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de représentation, par exemple, elle est non seulement le cœur de notre civilisation, mais elle est aussi au cœur des représentations imaginées. Que, par exemple, vous avez des perturbations électriques dans la science-fiction lorsque des extraterrestres arrivent ou lors de la venue d'OVNI. Hein, vous voyez ça, par exemple, très souvent dans la série X-Files, où vous avez de manière récurrente des extraterrestres, donc des OVNI qui arrivent et donc perturbations électriques. Et dans le fantastique, vous avez exactement la même chose, puisque très souvent, lorsqu'un fantôme arrive dans une maison ou veut hanter une maison, eh bien, la première chose qui se passe, eh bien, c'est ces perturbations de la lumière et du réseau électrique. Voyez. Donc, en fait, en termes de symbole, la lumière donnée par l'électricité, c'est ce qui permet véritablement d'échapper à toutes les ténèbres, quelles qu'elles soient.
Quelles sont les propositions dans la fiction de ce qui se cache derrière la prise ? Sortie de la fiction, l'énergie au quotidien est-elle clairement comprise dans notre société ?
Je veux bien démarrer. Dans la lignée, finalement, de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que l'électricité, elle est perçue véritablement comme magique. Je crois que la très grande complexité à l'heure actuelle des réseaux électriques, elle n'est absolument pas perçue par le grand public, sauf peut-être au moment des tempêtes, c'est-à-dire au moment où, quand le réseau électrique est coupé, on se rend compte que oui, le réseau, en fait, c'est un fil qui vient dans notre maison et que ce fil est attaché donc à notre réseau. Quand on fait des travaux, on se rend compte que quand on veut enterrer des lignes, par exemple, eh bien, il faut faire, ce sont des travaux assez, assez gigantesques. Donc oui, je pense que le grand public ne pas, parce que encore une fois, c'est un petit peu, on est toujours un peu dans l'imagerie de la fée électricité telle qu'elle a pu être représentée par Jules Verne ou par exemple Albert Robida dans La vie électrique. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Albert Robida, c'est vraiment un auteur qui sur le sujet est extrêmement intéressant. Alors c'est un auteur qui appartient à ce qu'on appelle en fait la proto-science-fiction, c'est-à-dire qu'on est fin du 19e siècle où vous allez avoir ce genre de la science-fiction qui ne s'appelle pas encore comme ça, notamment en France, qui va se développer et donc qui va projeter des images de l'avenir. Et donc La vie électrique d'Albert Robida, c'est absolument extraordinaire parce que dans les années 1890, il va imaginer des villes, enfin tout notre pays entièrement câblé par l'électricité. Alors, évidemment, c'est une électricité avec des fils qui sont un petit peu partout, hein. C'est un peu anarchique. Mais en réalité, pour lui, vraiment, l'électricité, c'est la panacée. Donc, ça, c'est important parce que je crois que depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, les gens comprennent bien qu'il y a un réseau derrière, mais je crois qu'ils continuent en fait d'avoir cette image de l'électricité et du réseau électrique qui s'installe de manière un petit peu magique.
Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Natacha vis-à-vis de Robida et surtout faire une nuance par rapport à Jules Verne dont on parlait tout à l'heure, que Robida, en fait, d'après ce que j'en ai identifié, est bien plus pessimiste que Jules Verne, en fait. Lui a tendance un petit peu à voir l'électricité donc comme l'énergie de l'avenir, et d'ailleurs c'est un peu l'énergie prodige qui permet d'alimenter le Nautilus, qui est évidemment le fameux sous-marin de 20 000 lieues sous les mers. Que Robida, en fait, va beaucoup associer aussi le règne de l'électricité à la décadence d'un homme qui serait une fois de plus aliéné en fait par celle-ci, puisque dans la vie électrique, elle va entraîner en fait chez les individus qui peuplent ce monde une forme de déchéance morale qui est un peu liée au rythme en fait de cette société qui est devenue hyper industrialisée et technique, qui a donc un petit peu asservi l'humain, mais elle entraîne aussi une forme de déchéance physique, puisqu'elle épargne en fait à l'homme tous les efforts qu'il devait auparavant fournir. Donc finalement, elle est un petit peu elle participe vraiment à corrompre l'homme, et en plus de ça, elle peut être dangereuse, puisqu'il la décrit comme toujours sauvage. D'ailleurs, elle échappe parfois au contrôle de l'homme qui voudrait la dompter. Cela provoque il appelle des tornades, qui sont des espèces d'ouragans électriques très destructeurs, en fait.
Je lis simplement pour notre public une citation de Robida, donc « La vie électrique », qui est un des chapitres ouvrage du XXe siècle. « Mais l'esclave que nous avons su forcer à nous rendre tant et de si variés services n'est pas si bien dompté, si bien arrivé à ses chaînes, qu'elle naît encore parfois ses révoltes, avec elle il faut veiller, toujours veiller, car la moindre erreur, la plus petite négligence ou attention peut lui fournir l'occasion qu'elle ne laissera pas échapper d'une sournoise attaque ou même d'un de ces brusques réveils qui font éclater les catastrophes. » Vous voyez, donc on a déjà chez Robida une dimension dystopique, et aujourd'hui évidemment ce n'est pas l'électricité qu'on ne maîtrise pas, mais c'est la façon de la produire, et je crois qu'on peut tout à fait voir dans l'avertissement de Robida, par exemple, eh bien, toutes les catastrophes qu'on a pu avoir avec les centrales électriques, ou même le vieillissement de nos centrales électriques. Puis, ça, c'est une question qui va se poser d'ici.
Sans minimiser ce que vous venez de dire, Natacha,
ouais.
Moi, il y a un aspect que je trouve quand même assez percutant, c'est que les points qui viennent d'être évoqués, tant par Antoine que par vous, sur Robida, auraient pu tout autant s'apparenter à n'importe quelle autre forme de technique. Genre, je pense notamment au feu. Je pense notamment au grand incendie de Londres de 1666, après tout, qui a commencé apparemment dans une boulangerie. Donc, c'est un feu, on s'en sert, on en a besoin, hein, puisqu'on se chauffe avec, on s'illumine avec, enfin on fait cuire nos aliments avec, et à un moment donné, dans une structure de ville qui est principalement en bois et avec donc une architecture très rapprochée, le feu échappe au contrôle de quelqu'un et enflamme toute la ville. Donc en définitive, c'est une mise en garde qui pourrait s'appliquer à des formes anciennes qui pour autant ne seraient peut-être pas, et ça c'est la question que je vais vous poser du coup, perçu de cette façon par Robida. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une mise en garde contre les déviances humaines, ou est-ce que c'est une forme de pensée réactionnaire?
Alors moi je crois qu'il y a un petit peu les deux, parce que Robida en fait pour lui la fée électricité c'est une force naturelle. Et que l'homme veuille, et donc là on fait le lien à la boucle évoquée avec Zeus, si vous voulez, cette force naturelle qui nous vient finalement de peut-être de la divinité ou de la nature divinisée, eh bien on ne peut pas finalement, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la dominer, Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que l'homme se prendrait pour Dieu. Et donc, chez Robida, il y a quand même ce discours par rapport au progrès qui est toujours très, très prégnant et très présent, dans le sens où il ne faut pas que l'homme se prenne pour un dieu, il ne faut pas que l'homme se prenne pour Zeus, parce que l'homme ne peut pas, absolument pas, maîtriser donc ce qui lui vient de la nature. Et donc, toutes les civilisations qui vont être construites, en fait, d'après Robida, sur cette maîtrise-là, eh bien, ne sont que voués à l'échec, parce qu'en réalité, on veut prendre donc la place des dieux. Et ça, c'est une, je dirais, c'est une pensée que vous allez retrouver quasiment dans toute la littérature post-apocalyptique, c'est-à-dire que on est complètement dans la punition de l'homme qui, via le progrès, a vraiment. Alors, ça peut prendre des formes très très varié. Si vous prenez par exemple la planète des singes et notamment le reboot qui a été initié par Rupert Wyatt en 2011, le virus, je vais faire le lien avec l'actualité, mais en fait qui a été créé par les scientifiques pour rendre intelligents les singes, en fait est mortel pour l'humanité, c'est-à-dire que nous avons voulu transformer donc des animaux pour les faire à notre image, en fait. Hein, c'est ça l'idée de la planète des singes. Finalement, eh bien, la nature se retourne complètement contre nous, puisque les singes non seulement prennent leur place, mais que, bien évidemment, le virus détruit quasiment toute l'humanité. Vous voyez, donc, même sur des productions contemporaines de la science-fiction extrêmement récentes, on retrouve, même dans les films catastrophes, hein, tout simple, eh bien, on va retrouver cette espèce de sanction contre l'humanité.
Je suis complètement d'accord avec Natacha vis-à-vis de Robida. En effet, il y a vraiment cet aspect, l'homme qui veut s'élever, en effet, trop près des dieux, mais qui veut le retour de bâton, quoi.
D'accord. Et en ce qui concerne donc l'énergie dans la fiction, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, que ce soit de la fiction historique, je vais dire, ou de la fiction plus contemporaine ?
Non, là, je t'avoue que j'ai pas grand-chose sur.
D'accord. Natacha, non plus ?
Sur la fiction, je pense que l'imagerie, en fait, de l'énergie, aujourd'hui, on va la retrouver dans toutes les productions donc, de super-héros, notamment. Alors, vous allez la retrouver, par exemple, dans les X-Men, à travers la figure donc, de la mutante Tornade, capable de déclencher des éclairs. Vous allez la retrouver également chez Spider-Man en 2014, puisque Spider-Man va avoir un ennemi qui s'appelle Electro et qui est donc un personnage qui est capable de déchaîner un pouvoir électrique absolument destructeur, qui peut soit fusionner avec le réseau électrique, utiliser comme il le souhaite. Et puis alors, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est la vision de l'énergie que vous allez avoir dans les Marvel, c'est-à-dire concernant toute l'histoire autour de Thor, issu donc de la mythologie nordique, mais revisité, réécrit finalement, je dirais, à la sauce contemporaine, et puis dans une esthétique. En fait, on est avec Thor, pour moi, on est dans une esthétique véritablement de l'énergie, c'est-à-dire dans une véritable mise en scène de l'énergie, puisque ce qui fait le pont entre les mondes, ça c'est évidemment une qui nous vient de la mythologie nordique, eh bien ces ponts entre les mondes sont constitués donc d'une énergie extrêmement puissante. Et cette énergie extrêmement puissante, eh bien, on la retrouve par exemple dans le marteau de Thor, alors qu'il n'est pas une énergie électrique, mais qui fonctionne en fait avec l'imagerie qui est une imagerie de l'énergie. Donc, vous voyez, je pense que ça aussi c'est un domaine qu'il faudrait étudier avec précision. Pour voir pourquoi est-ce que dans ces films de quelle singularité en fait de l'énergie réseau électrique on pourrait retrouver dans les films de super-héros. Je ne suis pas encore penchée sur la question, mais je pense que ça serait intéressant, voyez, de réfléchir à cette représentation particulière.
Alors, au dire de Stan Lee, donc dans une interview que moi j'ai vue dans un documentaire qui date de 2012, si ma mémoire est bonne, il disait que l'énergie était bien entendu d'abord et avant tout un prétexte, et surtout qu'il utilisait donc les aspects contemporains donc de son époque. Alors, je vais faire une situation un peu pas aléatoire parce que je sais ce qu'il a dit, mais je vais probablement pas y aller au mot juste. Hein, mais ce qu'il disait, c'est que si Hulk, qu'il ne sait pas ce qu'est un rayon gamma. Mais Hulk a été irradié aux rayons gamma parce que les rayons gamma, ça a l'air de faire une bonne histoire. Voilà.
Ouais.
Voilà, c'est un peu pareil pour les quatre fantastiques et ainsi de suite. Mais dans le domaine justement de l'électricité au quotidien, quoi, qui était notre sujet de base, on peut également citer Star Trek, par exemple, avec la façon dont les moteurs des différents vaisseaux sont alimentés. Le moteur à dilithium pour Starfleet, mais les Romuliens utilisent une singularité justement dans leur moteur, et ainsi de suite. C'est également, Star Trek parle également de sphère de Dyson. Voilà, il y a différents types d'énergie qui peuvent être présentés. C'est pareil avec le sabre laser, hein. Ce sont des cristaux qui sont mis dans un sabre pour faire le sabre laser. Donc, depuis le golem de Prague, l'humanité s'est représentée l'intelligence artificielle de bien des manières. Comment cela représente-t-on dans la fiction et plus particulièrement dans la SF? Ces IA passeraient-elles le test de Turing? Donc, pour rappeler rapidement, le test de Turing est le test qui permet de déterminer si une intelligence artificielle a l'air suffisamment humaine que pour ne pas être reconnue par un humain. Bien entendu, il y a différents types d'intelligence artificielle et ça ne rend pas cette intelligence artificielle haine pour autant. C'est juste que dans une conversation, on ne pourrait pas déterminer si la personne à qui on parle est humaine ou un programme. Voilà.
Alors, je suis pas un spécialiste d'IA, bien sûr, mais juste des représentations donc de l'IA dans la fiction. Alors, d'abord, le premier point très rapide, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, elle est clairement liée à l'électricité. C'est-à-dire que elle ne peut pas vivre sans énergie, sans électricité. Vous voyez? Donc, je dirais qu'on est peut-être ici sur une thématique collatérale en fait du réseau et de l'énergie. Et ça, on le
Parfaitement
voit.
évoqué dans Matrix.
Alors, parfaitement évoqué, effectivement, dans Matrix, parce que dans Matrix, c'est le corps humain, en fait, qui sert d'énergie. Il parle bien de pile pour donner de l'énergie, donc, bien sûr, aux machines. Pensez, par exemple, au film Transcendance. On a, en fait, le cerveau d'un humain qui passe, donc qui est joué par Johnny Depp, qui va passer donc dans une machine, dans un ordinateur, mais va avoir besoin, évidemment, pour se développer complètement, eh bien, de gigantesques champs d'énergie. Alors c'est de l'électricité fabriquée donc par de l'énergie solaire, et il ne pourra se développer en tant qu'IA en fait uniquement que lorsqu'il aura cette énergie extraordinaire. Alors autre image aussi par rapport à l'IA qui est importante par rapport à l'énergie. Alors je dirais que c'est le film fondateur en quelque sorte de la représentation de l'IA au cinéma. Donc Franck Celsis serait là, il serait évidemment tout à fait d'accord avec moi parce que c'est un grand fan de ce film. Odyssée de l'espace, donc de Kubrick, en 1968. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu de représentation de l'IA avant la fin des années 60, hein, aussi bien au cinéma d'ailleurs que dans la littérature. Et donc au cinéma, on a cette représentation de l'IA dans 2001 qui va poser en fait deux choses. La première, c'est que l'IA est représentée, alors ça c'est un petit truc absolument génialissime de cinéma, c'est-à-dire que l'IA est représentée par une caméra, une espèce d'œil rouge, qui va pour bien longtemps en fait représenter en fait l'intelligence artificielle. La preuve en est, c'est que vous allez retrouver ça dans le Terminator en 1984. Puisqu'il faudra écraser la tête du Terminator pour que la petite lumière rouge donc s'éteigne et vous avez cette couleur rouge qui est reprise évidemment dans Skynet. Vous savez, dans le logo de Skynet, on a toujours ce petit point rouge ou ce petit triangle rouge qui est extrêmement présent. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que l'intelligence artificielle, il lui faut de l'énergie et il lui faut de l'espace. Parce que pour l'instant, en 68, c'est un ordinateur absolument gigantesque. Et quand donc Dave, le héros, se rend compte évidemment que l'intelligence artificielle, donc HAL 9000, est devenue meurtrière, eh bien il va dans la salle donc des machines et petit à petit, alors c'est une scène culte évidemment dans le film, va en fait enlever les barres d'énergie. Donc de l'intelligence artificielle qui va petit à petit mourir avec sa voix qui va descendre de plus en plus donc dans les graves. Voilà. Donc ça c'est un point qui est très important. Et dès le début dans l'histoire des représentations, elle est toujours reliée à l'énergie. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué en fait parce que les représentations de l'intelligence artificielle, d'abord elles ne sont plus centralisées, voyez, dans une pièce et dans cette espèce de d'immense ordinateur, mais elle s'est complètement en fait disséminée dans le réseau informatique, voire le réseau électrique, hein, puisqu'on va trouver ça dans différents films, différents livres, différents romans. Et du coup, ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qu'on maîtrise moins, parce qu'on ne sait pas où elle est. Vous voyez? Et ça, on va le retrouver dans le film Air, donc de Spike Jonze, où d'abord l'intelligence artificielle n'est pas représentée, elle est juste une voix dans un ordinateur. Et ensuite, lorsqu'elle décide, alors pour la petite histoire, c'est un humain qui tombe amoureux de cette voix et de cette intelligence artificielle, humain qui est joué par Joaquin Phoenix. Donc cette intelligence artificielle, à la fin, eh ben, elle décide tout simplement de le quitter. Et donc on a cette image de celle qui constitue l'ordinateur. Donc, petit à petit, donc s'envoler, voyez, comme des graines donc de fleurs, de graminées ou de marguerites ou de pissenlits donc au vent, et qui sont disséminées en fait à travers tout le réseau informatique. Voilà. Et donc vous voyez qu'en fait l'intelligence artificielle quand même est toujours liée à cette notion de réseau, que ce soit le réseau électrique ou le réseau informatique. Et ça, c'est, je pense que c'est dans les plus intéressants de
Question
l'historique.
avait été
Voilà.
aussi évoquée, présentée dans Ghost in the Shell, notamment avec donc le premier film de 1995, avec donc en antagoniste le Puppet Master qui s'avère être une IA. Justement, spoiler, hein, mais si vous l'avez pas vu, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est sorti, hein, on peut même dire 25. Donc je pense que quand même là, on peut peut-être un peu en parler. Le Puppet Master décide de fusionner avec la conscience de la protagoniste principale, Motoko Kusanagi, et former une sorte de nouvelle intelligence à la place, et qui justement va trouver sa place dans le réseau en lui-même. Mais on trouve également d'autres représentations assez intéressantes, hein, et bien entendu dans la subversion, hein, puisque vous parliez de l'IA de l'Odyssée de l'espace, il y en a bien entendu une version assez amusante, on va dire, dans l'antagoniste de Wall-E.
Oui, aussi.
Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour lui, du coup, et les autres questions peut-être pour une prochaine fois.
Mais oui, non, mais bien sûr. C'est simplement ce que je voulais rajouter, c'est que cette première table ronde en fait publique sur les liens entre donc les représentations de la SF et puis donc à travers Hypermonde et puis la chaire Reset, je pense qu'on est au début de ce travail-là et il faut évidemment que nous sommes en profondeur pour proposer un tableau en fait exhaustif de ces représentations de l'énergie, parce que je crois que c'est vraiment le point central actuellement de notre civilisation. Voilà.
Que vous aviez une annonce plus personnelle à faire, Natacha?
Oui, bah simplement, si vous voulez m'écouter sur la planète des singes, ce sera donc lundi dans l'émission Blockbuster de France Inter, dirigée par Frédéric Sipi. Donc voilà, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. C'est plutôt sur la pop culture, mais j'espère vous apprendre des choses sur Pierre Boulle, sur voilà les manuscrits, la suite de La Planète des singes qu'il avait pu écrire. Pourquoi est-ce que Hollywood n'a pas récupéré le scénario, etc. Enfin le manuscrit. Puis voilà, on va beaucoup beaucoup travailler. C'est un thème qui est tout à fait intéressant, La Planète des singes. Voilà. Donc.
Je vous remercie tous les deux pour la participation à cette table ronde et je remercie le public de nous avoir écoutés.